Et c'est l'heure du journal avec donc Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Les missiles arrivent, a annoncé ce matin Donald Trump. Une intervention militaire est donc imminente en Syrie en réponse à l'attaque au gaz toxique imputée au régime syrien à Douma. Cette attaque chimique est une invention des casques blancs, rétorque la Russie qui se dit prête à abattre les missiles américains. Affrontement à Notre-Dame-des-Landes, les gendarmes ont chargé massivement pour repousser les zadistes et leur soutien. Le Premier ministre Édouard Philippe écarte toute interruption des opérations. Nouvelle journée morte menée par des avocats, des magistrats et des greffiers. Ils dénoncent le projet de réforme qui va, selon eux, maintenir la justice dans son état de misère budgétaire. Les États-Unis se préparent donc à frapper la Syrie. Une mesure de rétorsion après l'attaque de samedi à Douma, dans la Ghouta orientale près de Damas. Une attaque chimique, d'après les organisations sanitaires locales. Selon l'OMS, qui réclame l'accès immédiat aux victimes, environ 500 patients présentent des signes et des symptômes cohérents avec une exposition à des produits chimiques toxiques. Moscou assure que l'attaque chimique de Douma a été mise en scène devant les caméras par les casques blancs, l'organisation de sauveteurs syriens en zone rebelle. Mais pour le président américain, il n'y a pas de doute. À peine réveillé ce matin, Donald Trump a rédigé une série de tweets offensifs, Grégory Phillips.
Oui, et le plus va-t-en-guerre de ces messages matinaux est sans doute celui-ci. La Russie a juré d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Eh bien, que la Russie se tienne prête, car ils arrivent beaux, nouveaux et intelligents. Trump parle des missiles et il ajoute « Vous ne devriez pas vous associer à un animal qui tue avec du gaz, qui tue son peuple et qui aime ça ». Là, le président américain parle évidemment de Bachar al-Assad. Quelques minutes plus tard, autre message présidentiel au ton un peu plus conciliant. Nos relations avec Moscou n'ont jamais été aussi mauvaises, y compris pendant la guerre froide. Mais pourquoi ne pas coopérer sur le plan économique? Il y a donc quelques minutes après le premier tweet, comme une main tendue. Tout ça, vous allez me dire, Aurélie, n'est pas très lisible, mais c'est du Trump dans le texte. Pour l'instant, le Pentagone répète qu'il a préparé plusieurs options militaires, mais ne donne pas plus de précisions. À l'agenda de la Maison-Blanche, il n'y a, à l'heure qu'il est, pas de déclaration officielle du président de prévu aujourd'hui, mais ça peut changer. Cette salve de messages matinaux laisse en tout cas penser que des frappes américaines sont imminentes. Et si les États-Unis frappent, eh bien, il n'y aura pas d'effet de surprise comme l'an dernier où les Tomahawk américains s'étaient abattus sur une base militaire syrienne. Là, tout le monde est prévenu, y compris les alliés russes de Bachar al-Assad.
Mais alors, dans le même temps, Grégory, Donald Trump fait un lien direct entre ses tensions avec les Russes et l'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller. Comment expliquer ça ?
Oui, alors ça aussi, c'est un message du président qui demande à être décrypté, parce que ce que dit Trump, c'est que tout ceci, l'animosité avec la Russie, est, je cite, largement causée par l'enquête russe qui est menée ici aux États-Unis par le procureur spécial Robert Mueller, une investigation encore une fois qualifiée de fausse et corrompue, dirigée par les démocrates. Donc le président américain fait un lien entre la crise diplomatique qu'on connaît actuellement et l'enquête menée ici à Washington. Le procureur Mueller, vous le savez, cherche à savoir si pour la présidentielle de 2016, il y a eu ou non collusion entre l'équipe de campagne de Trump et Moscou. Ça rend Donald Trump furieux, au point qu'on se demande depuis des semaines, et encore plus aujourd'hui, s'il ne va pas démettre de ses fonctions le procureur ou bien le numéro 2 du département de la justice pour bloquer toute l'enquête. Vous voyez, les deux dossiers n'ont pas grand-chose à voir, mais Trump, lui, fait le lien. Alors qu'il est, on est donc dans l'attente de deux décisions du président américain, frapper ou non la Syrie et virer un procureur indépendant qui enquête sur lui et ses liens avec les Russes. Dans ces deux dossiers, en tout cas, Trump vitupère et menace, et on verra peut-être dans les prochaines heures s'il passe ou non à l'action.
Grégory Phillips, en direct de Washington. La Turquie s'agace des échanges du jour entre les États-Unis et la Russie. C'est une bagarre de rue, commente le Premier ministre turc. Et qui en paye le prix? Les civils. Le moment n'est pas celui de la rivalité, ajoute le chef du gouvernement. C'est le moment de panser les plaies dans la région. Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir Aurélie.
C'est vrai qu'entre Donald Trump qui annonce que ses missiles arrivent et la Russie qui se dit prête à les abattre, c'est un peu qui aura le plus gros.
Oui, oui, le face-à-face verbal pour l'instant ou par tweet interposé risque effectivement de se transformer assez rapidement en une vitrine des capacités offensives et défensives américano-russes. Côté américain, on dispose ou on disposera à terme, quand les destroyers lance-missiles seront sur place en Méditerranée orientale, pour l'instant il n'y en a qu'un, de plusieurs centaines de missiles de croisière à longue portée susceptibles de viser simultanément plusieurs dizaines de cibles en Syrie. Les Russes de leur côté ont installé en Syrie plusieurs batteries anti-aériennes de missiles, des S-300, des Pantsir et autres torts, et surtout deux batteries de dernière génération, les S-400. Ces derniers sont susceptibles d'engager pratiquement tous les avions occidentaux, y compris les plus furtifs, qui s'approcheraient à moins de 400 km des côtes syriennes, mais aussi tous les missiles que ces appareils ou les navires américains ou français pourraient tirer. Le système S-400 n'a jamais été mis en œuvre en conditions de guerre jusqu'à présent, sur aucun théâtre, et nul n'est en mesure de dire s'il est aussi efficace que le promettent les Russes. Mais il est en tout cas redouté par les armées de l'air occidentales. Installé en Syrie sur la base aérienne de Meymim, près de Latakia, et aussi près de Homs, dans le centre du pays, les deux batteries de S-400 russes n'ont pour le moment jamais engagé qui que ce soit, pas même les appareils israéliens qui ont effectué plusieurs dizaines de missions d'attaque et de bombardement en Syrie et contre les alliés directs de la Russie sur place, en particulier le Hezbollah et les forces iraniennes.
Et en Syrie, on se prépare aux frappes américaines. Les forces gouvernementales ont évacué les principaux aéroports et les bases aériennes militaires du pays. Et la route orientale a été entièrement reprise aux rebelles. Cette zone proche de Damas était assiégée depuis des semaines par le régime syrien. La situation est totalement stabilisée selon l'armée russe. 257 morts dans un accident d'avion au sud d'Alger. C'est le pire drame aérien de l'Algérie. C'est un avion de l'armée algérienne qui s'est écrasé peu après son décollage. Les victimes sont majoritairement des militaires et des membres de leur famille. On ignore encore la cause de l'accident. Pour la première fois, un membre du gouvernement birman s'est rendu dans un camp de réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Le ministre birman des Affaires sociales a rencontré des responsables communautaires Rohingyas à Kutupalong, le plus grand camp de réfugiés du monde à proximité de la frontière birmane. Mais au Bangladesh, beaucoup restent sceptiques quant aux réelles intentions des autorités birmanes. Le décryptage de Sébastien Farcy, correspondant de Radio France et RFI dans la région.
Le ministre birman des Affaires sociales a passé quelques heures dans le camp de Kutupalong parmi les Rohingyas qui ont fui la Birmanie par peur d'être massacrés. Monsieur Win Myat Aï a discuté avec des représentants de cette communauté musulmane et a assuré qu'ils voulaient entamer leur rapatriement le plus vite possible. Une affirmation à laquelle ne croit pas Zafrullah Chaudhuri, directeur de l'association humanitaire bangladaise Gonoshastriya Kendra, présente dans les camps.
Ça ressemble à une campagne de promotion de la part du gouvernement birman, car il n'a pas de réelle intention de reprendre les Rohingyas.
Le gouvernement bangladais essaye d'accélérer le processus de rapatriement, mais il n'a pas été assez actif diplomatiquement, selon M. Chaudhuri.
Le Bangladesh ne fait pas assez d'efforts pour convaincre la Chine, qui est un acteur majeur sur cette question. Notre Premier ministre n'a pas été en Chine ces derniers mois et il ne négocie pas beaucoup non plus avec les pays de l'Organisation de la coopération islamique.
En attendant, Dhaka prévoit d'envoyer au moins 100 000 réfugiés Rohingyas sur une île déserte située dans la baie du Bengale. Depuis deux mois, des ouvriers construisent des routes et des rives pour en faire un lieu habitable. Mais pour beaucoup, ce déplacement isolera encore plus cette population persécutée.
Par ailleurs, la justice birmane maintient les poursuites contre deux journalistes de l'agence Reuters emprisonnés en Birmanie. Ils sont accusés d'atteinte au secret d'État pour avoir enquêté sur un massacre de musulmans Rohingyas. L'ultranationaliste serbe Vojislav Šešelj est reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Il était jugé en appel par un tribunal de l'ONU pour sa responsabilité dans les conflits dans les Balkans dans les années 90. En première instance, ce partisan virulent de la Grande Serbie avait été acquitté. Le dossier de ce journal est consacré à la révolte contre la cigarette dans les bars et restaurants autrichiens. Selon une loi votée en 2015, l'interdiction de fumer dans les lieux de restauration devait s'appliquer à partir du 1er mai prochain. Mais au sein du nouveau gouvernement, le FPE, parti d'extrême droite, défend âprement la liberté de fumer et il a réussi à imposer son point de vue à son partenaire de coalition. Il y a maintenant trois semaines, les parlementaires autrichiens ont donc adopté une loi permettant de continuer à fumer dans les restaurants et dans les bars. Seulement voilà, des citoyens autrichiens se rebelle et une pétition lancée par l'Ordre des médecins a recueilli près de 600 000 signatures en quelques jours. Le reportage d'Isorias à Vienne.
Dans un petit bar du 16e arrondissement viennois, l'un des plus animés, une quinzaine de clients discutent sur fond de musique, cigarettes à la bouche. La plupart déplorent pourtant la loi votée par les parlementaires en mars dernier et qui permet de continuer à fumer dans les lieux de restauration.
C'est évident que la solution autrichienne des espaces séparés dans les lieux de restauration n'a jamais fonctionné car les non-fumeurs sont très souvent obligés de fréquenter les espaces fumeurs.
Quand je voyage dans d'autres pays, ça ne me dérange pas de sortir pour allumer ma cigarette. Ça me permet même de moins fumer. L'interdiction protégerait donc aussi ma santé.
Gabriella, la serveuse de l'établissement, écoute les conversations avec intérêt. Pour elle, une interdiction serait tout simplement inutile.
Il y a déjà de nombreux bars et restaurants où on trouve des espaces séparés pour les fumeurs et les non-fumeurs. Ceux qui ne veulent pas fumer peuvent aller dans une salle réservée, il n'y a pas de problème. Moi, je fréquente beaucoup les cafés avec espaces séparés et à chaque fois, je constate que les salles non-fumeurs sont vides, tandis que les salles fumeurs sont pleines à craquer.
Le sujet divise les Autrichiens. Les professionnels de santé sont eux beaucoup plus unanimes. L'Ordre des médecins autrichiens a lancé une pétition qui a recueilli 590 000 signatures, soit près de 10% du corps électoral du pays. Selon Thomas Zekeres, le président de l'organisation, le sujet est aujourd'hui politique. C'est en effet le FPE, le parti d'extrême droite, qui a convaincu son partenaire conservateur de faire voter cette loi. Il regrette qu'on ne parle pas suffisamment des enjeux sanitaires.
Certains partis soutiennent la liberté de fumer dans les restaurants car ils espèrent ainsi gagner des voix auprès des électeurs. Mais fumer est dangereux pour chaque Autrichien, peu importe son orientation politique. Il faudrait plutôt agir en pensant à la santé des habitants. Et on sait que bannir la cigarette des lieux de restauration a un impact immédiat. Ça a été le cas en Italie. Quelques mois après l'interdiction de fumer dans les bars et les restaurants, le nombre de crises cardiaques a baissé.
L'Ordre des médecins vise désormais les 900 000 signatures. L'organisation espère ainsi faire pression sur les parlementaires et lancer une procédure de référendum. Mais en face, les partisans de la liberté de fumer s'organisent eux aussi. Heinz Polischanski est restaurateur à Vienne. Il y a quelques semaines, il a lancé une contre-pétition soutenue par la Chambre de commerce.
Dans les pays où il est interdit de fumer dans les bars et les restaurants, on voit que la petite restauration se meurt, en particulier à la campagne. Pour nous, il est très important que la restauration puisse survivre et faire vivre l'économie du pays. Aucun commerce ne doit disparaître, peu importe sa taille.
L'Autriche est le quatrième pays de l'OCDE où l'on fume le plus. Chaque année, 13 000 personnes meurent de maladies liées au tabac.
13 000 personnes sur 8 600 000 habitants, c'est donc proportionnellement beaucoup plus qu'en France où 75 000 personnes décèdent chaque année à cause du tabac. Les opérations vont se poursuivre avec la même fermeté et avec la même mesure, affirme Édouard Philippe au sujet de Notre-Dame-des-Landes. Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée, le Premier ministre a exclu toute pause dans l'évacuation de la ZAD, malgré les demandes de plusieurs députés, y compris d'élus La République en marche, comme Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot. Édouard Philippe promet de la mesure, mais c'est une charge massive que les gendarmes ont lancée cet après-midi au cœur de la ZAD. Le récit de Thibault Lefèvre.
Une matinée très calme, peut-être trop calme, et puis tout s'est accéléré. Les gendarmes mobiles sont passés à l'offensive vers 14h, juste après le grand pique-nique citoyen qui a été organisé par les zadistes. Beaucoup de militants associatifs, de tous âges, quelques familles avec de jeunes enfants, et aussi une cinquantaine de black blocs armés de cocktails Molotov et de projectiles. Tous se sont retrouvés en quelques minutes sous les tirs de grenades explosives. Des mouvements de foule, quelques manifestants en sang, un blessé évacué sur une civière, et les gendarmes mobiles qui ont pris en étau les zadistes. Au sud, ils ont repris le lieu-dit de l'Isolette. À l'est, ils ont avancé jusqu'aux Fosses Noires. Et à l'ouest, ils se sont positionnés sur le rond-point de la Sauce. Trois points stratégiques qui ont obligé les zadistes à fuir dans les champs. Les gendarmes occupent depuis le milieu d'après-midi les principaux lieux de vie de la ZAD. Les militants dénoncent les mensonges de la préfecture qui avait assuré vouloir maintenir un dialogue, et notamment avec les agriculteurs les plus intégrés de la zone. Ils promettent de continuer leur combat samedi lors d'une grande manifestation à Nantes et dimanche sur la ZAD. C'est l'offensive la plus importante à Notre-Dame-des-Landes depuis lundi.
Thibault Lefèvre à Notre-Dame-des-Landes avec Laurent Lucas à la technique. Nouvelle offensive contre la réforme de la justice. Une semaine avant l'arrivée du projet de loi en Conseil des ministres, avocats, magistrats et greffiers se sont rassemblés à Paris. Ils redoutent notamment la suppression des tribunaux d'instance chargés de la justice du quotidien. Et d'après eux, ce projet sacrifie toute notion de qualité au nom de la productivité. Les manifestants sont venus de toute la France. Emmanuelle Delay est avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. À Boulogne, la grève dure depuis 3 semaines, toutes les audiences sont reportées et elle porte sa robe d'avocat avec un squelette en plastique à la main, squelette très symbolique.
C'est le deuil de la justice que nous faisons aujourd'hui, tout simplement parce que la réforme de Madame Belloubet tend à dénier l'accès aux droits des justiciables on va remettre en cause des droits fondamentaux. Et ça, les avocats et les magistrats ne peuvent pas l'accepter. C'est l'union sacrée pour la défense des droits des justiciables. Voilà, et c'est exceptionnel. Et si on est tous ensemble, c'est vraiment qu'aujourd'hui, la justice est en danger. Depuis très très longtemps, on sait quels sont les besoins de la justice. C'est des besoins humains, des besoins matériels. Nous, on est les premiers concernés au barreau de Boulogne-sur-Mer, puisque avec le procès d'Outreau, il y a une commission parlementaire qui a été effectivement mise en place. Et les conclusions de ce rapport étaient simples, plus de moyens à la justice. Aujourd'hui, cette volonté de déjudiciariser, c'est tout simplement pour donner encore moins de moyens à la justice. Donc c'est des faux prétextes.
L'avocate Emmanuelle Delay au micro de Solène Cressan. Le parquet de Paris a requis hier des peines allant jusqu'à 9 ans de prison à l'encontre des 5 habitants de Lunel jugés pour association de malfaiteurs à visée terroriste. Aujourd'hui, dernier jour du procès du groupe djihadiste, la parole était aux avocats de la défense. Et Antoine Marette, vous avez écouté la plaidoirie de l'avocat de Adil Barki, le seul prévenu qui reconnaît être allé en Syrie.
Adil Barki, c'est l'histoire de quelqu'un qui est allé en Syrie et qui en est revenu. C'est ainsi que Maître Nogueras résume ce que le tribunal reproche à son client. Un prévenu qui assume ce voyage interdit, contrairement à Ali Abdoumi, qui nie tout en bloc. Adil Barki ne s'est jamais caché derrière ses problèmes médicaux, des crises d'angoisse régulières, pour justifier son départ. Il ne s'est pas caché derrière les autres, il a assumé, explique son avocat. Maître Nogueras dépeint un homme naïf, très influençable, et reprend une classification du psychiatre Roland Coutenceau pour évoquer ceux qui sont partis en Syrie. L'idéaliste passionné, celui qui est le moins dangereux, car dont le discours est le plus friable. Adil Barki croit tout ce qu'on lui dit. C'est ainsi qu'il va se penser pendant plusieurs années possédé suite aux déclarations d'un imam. On lui demande de rejoindre l'organisation Jaïch Mohamed en Syrie. Il y va 5 semaines sans trop se poser de questions. L'avocat tente de contester le caractère terroriste de l'organisation, pourtant attesté par le tribunal. En juin 2014, plusieurs mois après le retour d'Adil Barki, la DGSI n'avait pas identifié ce groupe comme terroriste, affirme l'avocat. Il ne conteste pas que cette cellule se soit livrée à des combats, mais on est alors en zone de guerre, appelle Maître Nogueras. Ce qui ne l'empêche pas de reconnaître une difficulté dans la défense de son client. Pourquoi Adil Barki a-t-il pris tant de précautions pour dissimuler son départ en Syrie? Cela veut bien dire qu'il savait que c'était illégal. Maître Nogueras demande au tribunal, s'il condamne Adil Barki, de ne pas prononcer de peine de sûreté des deux tiers, ce qui a été réclamé par la procureure.
Antoine Marette, au Palais de Justice de Paris. Une arme anti-indifférence, voilà comment Jacques Toubon qualifie son rôle de défenseur des droits. Dans son rapport annuel, il constate que son équipe est toujours plus sollicitée. Plus de 140 000 demandes d'intervention ont été formulées. Jacques Toubon l'explique en partie par la difficulté d'accès aux droits dans certaines régions. Le pays, selon lui, souffre d'un retrait des services publics. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Aurélie.
Plus de 5 000 dossiers traités l'an dernier par le défenseur des droits concernent la lutte contre les discriminations, des discriminations en tout genre. Par exemple, pour obtenir un logement.
Alors, ce sont de simples propriétaires privés, parfois même des agences, qui se rendent coupables de ce délit, raconte Slimane Laoufi. Il est responsable du pôle emploi, biens et services privés du Défenseur des droits.
On nous a transmis des annonces où il était mentionné pas de noir, pas d'arabe. Dans le rapport.
Écrite,
tout à fait, écrite. Là, dans le rapport annuel, vous avez un cas qui a été traité par nos services et vous voyez que l'annonce, il était mentionné pas d'homosexuel. On en arrive à des situations au XXIe siècle où on se dit c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Une maman célibataire, on va lui dire non, c'est pas possible, le propriétaire ne supporte pas les enfants. On lui dira, et puis on lui fera comprendre. C'est une résidence qui est assez calme, elles s'entendent tous bien, et puis les enfants de 8 ans ou 9 ans, comme dans l'exemple qu'on a donné dans le rapport annuel, bah, c'est rédhibitoire. Alors que toutes les garanties financières sont là.
Donc quand les garanties sont là, le défenseur lance une enquête. Il peut convoquer à Paris ceux qui ont mis ce genre d'annonce pour les auditionner. Le procureur de la République l'autorise aussi à faire du testing, à proposer donc 2 clients fictifs pour voir si, au hasard, celui qui a un nom à consonance étrangère se fait retoquer. Une fois la preuve établie, le défenseur des droits peut agir contre le propriétaire ou même l'agence.
Ce sont des professionnels de l'immobilier, ils sont astreints à un code de déontologie. Ça peut aller même jusqu'à la suspension de la licence immobilière quand même pour les agents immobiliers. Mais on va aussi peut-être saisir le procureur de la République pour faire une transaction. Il va y avoir une amende, il va y avoir un remboursement du préjudice moral. Et le préjudice moral, on a du mal à l'estimer. Donc ça va être une négociation sur un refus de location, ça peut être 1 000 ou 2 000 euros.
Autrement dit, précise Slimane Laoufi, les plaignants peuvent obtenir réparation, ils doivent donc saisir le défenseur des droits car il est illégal de refuser de louer son bien, par exemple, à des étudiants qu'on imagine trop bruyants. Toute discrimination est passible de 45 000 euros d'amende et de 3 ans de prison.
Tara Schlegel, enfin on a appris le décès de Jean-Claude Servan-Schreiber, résistant, homme de presse, député gaulliste. C'était le fils de Robert Servan-Schreiber, fondateur des Échos, et le cousin de Jean-Jacques et de Jean-Louis. Il avait tout juste 100 ans. De la pluie demain sur l'Hexagone, il y aura de nombreux orages sur le Var et les Alpes-Maritimes. Le ciel s'éclaircira l'après-midi dans le nord-est et le sud-ouest. Les températures 5 à 11 degrés le matin. Les maximales seront douces, de 12 à 18 degrés et même 20 en Alsace. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.